Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Grand Contrôle.
Libré.
Libré curieux.
Grand Contrôle, l'événement.
Bonsoir, merci de nous rejoindre sur le Ground Floor Café, donc de Ground Control Radio, l'émission littéraire du jeudi. Ce soir, on va parler d'un seul livre, mais on va parler de bien d'autres choses que de livres, parce que ce soir, nous avons avec nous Mathieu Colligan. Donc Mathieu Colligan qui est, j'ose dire, avant tout un artiste peintre, mais qui est aussi un illustrateur politique, un militant que je vais résumer par altermondialiste, mais c'est évidemment beaucoup plus riche et plus complexe que ça, et puis qui est l'auteur d'un... Et c'est à ce titre qu'il est là ce soir principalement, l'auteur d'un album graphique donc paru il y a quelques mois aux éditions Adespot, qui s'appelle Manif, qui est absolument somptueux. Et on va tenter de vous faire partager la joie autour de cet album ce soir et de réussir la gageure qui est de parler en fait d'images à la radio. Donc bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Et on va... parler probablement de ton parcours de peintre. On va parler de ton parcours également de militant et d'accompagnateur d'un certain nombre de mouvements, de luttes. Et puis ensuite, on se concentrera sur tout ce côté un peu magique qu'il y a dans Manif. Et voilà, et je propose qu'on s'y mette dans un instant.
Ground Control, le direct.
Donc on parle peinture, c'est ça maintenant?
Absolument. Donc voilà, ta peinture, alors c'est quelque chose d'assez particulier. Moi, je l'ai découverte il y a quelques années. Ça m'a vraiment bouleversé par sa puissance visuelle. Alors on avait parlé à l'époque et tu m'avais dit qu'effectivement, il y avait dedans tout un travail qui venait aussi d'un retravail, d'une recomposition de l'art de la fresque murale et de choses qui font penser notamment à Diego Rivera. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de ce travail
Ouais, je pense que la plupart des processus créatifs, on les justifie a posteriori en racontant qu'on a fait tout un cheminement. En fait, c'est plutôt les choses se passent telles qu'elles se passent et on constate après. C'est-à-dire que pour moi, j'ai peint surtout les supports que je trouvais, les moins chers et pour être vu à l'extérieur aussi. Et donc là, petit à petit, on se met à adopter des formats, on a des logiques qui rencontrent, où on finit par découvrir que dans l'histoire, bizarrement, d'autres peintres ont fait le même cheminement et l'ont fait d'une façon brillante. Et donc, c'est pas un cheminement où je dis « Mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais faire de la peinture comme Diego Rivera ?» C'est qu'une fois que j'ai commencé à peindre sur des murs et peindre des sujets politiques, je me suis dit, en rencontrant le travail de Rivera, ah bah il y a des gens qui ont fait super bien ce boulot avant. Voilà, c'est plutôt un cheminement comme ça où, bon, à la fois, il y a ce souci, je dirais, par exemple, de gens comme Rivera, d'avoir une peinture exigeante, qui répond à un vrai travail plastique, et en même temps qui répondent à d'autres exigences, c'est-à-dire d'être en phase avec des enjeux sociaux, avec l'histoire, avec des espaces sociaux plus populaires que le milieu des éclairés, avec toutes les guillemets nécessaires, qui s'intéressent au monde de l'art. Après, quand je parle de Rivera, je dirais que c'est une source d'inspiration, évidemment. Je suis conscient qu'il y a des très grands peintres dans l'histoire et puis qu'on peut s'en inspirer sans prétendre être du même niveau. Mais Rivera, mais en même temps, par exemple, une autre des travaux, par exemple, de la figuration libre, à un moment, a eu pas mal d'artistes qui ont... qui travaillaient sur des toiles, qui avaient des problématiques, qui étaient des vraies problématiques, qui s'inscrivaient dans l'histoire de l'art, et en même temps utilisaient comme support le dos de blouson, des murs, des affiches, donc qui dépassaient un peu le cadre classique de la galerie. C'est assez difficile de peindre des ouvriers, de peindre de tout ce qui se passe dans la rue, et de prétendre ensuite les exposer dans des galeries et les vendre à des prix de défiant toute concurrence pour un pouvoir d'achat, disons, classique.
Et je trouve que c'est beaucoup de tes toiles, enfin celles que j'ai pu voir, que ça soit, je dirais pour de vrai, enfin donc en atelier ou en galerie, ou en reproduction électronique hein, sur Internet pour certaines d'entre elles. Je trouve qu'elles ont ce pouvoir. Alors c'est un maniement probablement. Enfin, moi n'étant pas peintre, évidemment, je peux pas mettre nécessairement un nom sur ça, mais il y a un maniement du tracé, puis de la couleur, d'une violence et des contrastes qui font que je trouve que ce sont des toiles qui, à tout moment, et on parlera du type de lutte qu'elles illustrent, mais qui gardent un pouvoir de conviction très immédiat, très fort. Et je pense à l'une d'entre elles notamment, donc sur une lutte, une situation très contemporaine qui est justement sur les questions de ce qu'on se plaît à appeler les migrants plutôt que de dire des réfugiés tout simplement. Tu as une de tes toiles qui présente en fait un douanier à l'aéroport qui se prépare en fait à contrôler...
un barré de chemin même, un migrant.
Un barré de chemin. Donc, et ce douanier... donc il est, alors, tu vois, c'est du souvenir, hein, mais il y a une légère contre-plongée. Et ce qui saute à la figure, en fait, c'est ses chaussures de ce douanier. Et par la magie de la toile, ses chaussures en disent beaucoup plus, en fait, et de façon instantanée, qu'un long discours sur la filtration et l'interdiction de...
Oui, c'est des chaussettes à clous, quoi. C'est les chaussures des chaussures de militaires, des trucs qui n'inspirent pas le dialogue et à la fois c'était, j'ai aussi essayé de représenter dans cette peinture, puisqu'on parle évidemment, c'est un support c'est compliqué de parler d'images sans les montrer. J'essaie de le représenter de façon aussi assez drôle. C'est un bonhomme avec les moustaches en guidon et le képi.
Et il a un côté Brigade du Tigre. Ouais.
Je pense qu'on peut parler de choses graves, de choses dures, tout en gardant formellement une tonalité pas légère, mais d'utiliser des couleurs vives, des formes assez drôles, jouer avec des symboles, même dans ce qu'ils peuvent avoir de ludique, alors qu'on parle de quelque chose de sérieux. Pas de nécessité à surligner, en disant attention, c'est très grave, et je fais que du noir et blanc pour montrer à quel point c'est très très grave.
Alors, on en reparlera certainement tout à l'heure à propos de manifs, où il y a énormément de luttes et de situations très contemporaines. Je repense à une situation donc, qui est beaucoup plus ancienne, qui est assez frappante, parce que c'est une lutte qui est inconnue du grand public, je pense, qui met en scène en fait, le mouvement social de grève et de révolte d'un ensemble d'ouvrières, de conserveries à Douarnenez, donc, dans l'après-Première Guerre mondiale. Et j'avais trouvé ces toiles très étonnantes, en fait, parce que c'est pas une lutte sociale qu'on a forcément en tête. Et
je voulais... En fait, elle est très, très connue localement. Ça fait partie de ces histoires populaires qui sont où tous les gens du coin connaissent la lutte historique de telle époque ou de telle, et qui, par contre, effectivement, qu'on retrouve rarement dans les médias dominants ou ressassés dans les livres d'histoire. Mais le communisme de la Sardine, c'est-à-dire la lutte des sardinières, c'est une lutte qui est très connue en Bretagne. C'est dans les années 20, une lutte très dure qui opposait un patron, qui était un grand patron de combat, aux ouvrières sardinières. Les maris allaient pêcher la sardine et les femmes les mettaient en conserve pour des sommes dérisoires, obligées de porter une coiffe réglementaire et de tout dans des conditions absolument dégoûtantes. Et ça a été une lutte épique, entre autres racontée par Charles Tillon dans ses mémoires, où il raconte comment le patron envoyait, puisque la police n'y pouvait rien, envoyait des ouvriers jaunes qui venaient de Paris casser la grève par tous les moyens, y compris en tirant sur le maire de Douarnenez, qui était un maire communiste à l'époque. Enfin, ça a été une lutte terrible qui s'est finie par le fait que ces sardinières sont allées brûler la préfecture et que l'État français a mis un mouchoir sur cette histoire pour... Il n'y a pas eu de condamnation non plus des sardinières, ça s'est arrêté à un débordement historique d'une époque, mais qui a fait que pendant une très longue période, il y a une tradition de mouvements sociaux dans cette région, de mairies communistes dans une région qui était plutôt conservatrice. Enfin, c'est un truc qui a perduré et qui, hélas, n'est pas assez connu dans une histoire commune, une histoire populaire commune, un peu comme tout le travail qui est fait, par exemple, aux États-Unis, non seulement par Howard Zinn, mais par énormément de gens, de raconter l'histoire populaire américaine, de la raconter, pas forcément quand progressiste, dans la culture nord-américaine, mais qui entretiennent une histoire populaire de l'Amérique. L'histoire populaire en France, elle est quand même totalement sous-évaluée. J'ai en tête, par exemple, quand on raconte les grands événements en général, on les raconte à travers des figures de la haute bourgeoisie. Quand on parle de la Révolution française, on ne parle pas des sans-culottes. On parle des gens qui sont à l'Assemblée, par exemple.
Alors, dans ce travail, justement, de mémoire, mentionné Howard Zinn, je pense que c'est effectivement intéressant de voir à quel point son retentissement a également changé de nature, et c'est sans doute certainement pas par hasard, quand d'une histoire uniquement écrite, en fait, il est aussi passé à un deuxième média, donc à une histoire illustrée, en fait, des États-Unis, donc en bande dessinée, et où qui a doublé ou triplé, en fait, la pénétration, si j'ose dire, de son histoire populaire des États-Unis.
Elle a même encore été encore plus diffusée à travers le film de Daniel Mermet sur Howard Zinn, qui reprend au moins la première partie de cette somme sur l'histoire populaire des États-Unis. Oui.
Et donc je me demandais justement si comment toi tu considérais le travail, puisqu'il y a une peinture qui est une illustration et un soutien de lutte actuelle. Mais il y a aussi donc ce travail de mémoire de nous reparler en fait de lutte, de nous reparler visuellement de lutte plus ancienne. Comment tu considères le lien entre ces deux-là ?
Comment je choisis c'est compliqué, hein, de l'inspiration. Je pense qu'il y a des choses que j'ai envie de peindre, de raconter. Je ne sais toujours pas le faire pour l'instant. Je ne sais pas comment l'aborder. Et puis il y a d'autres événements où ça a lieu le lendemain sur la question des migrants. J'ai vu sur une plage turque le cadavre du petit Ilian Kurdi. Immédiatement, c'était une évidence qu'il fallait que j'en fasse quelque chose, que je le peigne tout de suite. Et puis il y a d'autres histoires où je tourne autour du sujet, ça ne vient pas. Il y a un artiste allemand qui fait de la figuration libre. Non, pas de la figuration, pardon, de l'abstraction lyrique. Raconte que pour lui, peindre, c'est comme devoir tuer un rat dans la cave. On y pense, on sait qu'on doit le faire, c'est douloureux. Et puis, on y pense de plus en plus souvent, on y pense en regardant la télé, on y pense en mangeant. Puis un jour, on se lève du canapé, on prend un bâton, on descend dans la cave et on tue le rat. Point. Et je pense qu'il a ses raisons. C'est-à-dire que les processus créatifs, c'est des choses qui se mâchouillent. Quelquefois, c'est juste un événement, une manif où j'ai pu être, ou un article, un articulé même quelquefois que je peux lire. Et puis quelquefois, c'est des années où j'entends parler pendant des années de tel ou tel sujet. Et puis à un moment, apparaît je finis par cerner comment je pourrais à peu près le raconter.
Et je me souviens d'il y a quelques années de ça, Théo Acola, donc, qui était principalement connu comme musicien, hein, et comme chanteur, tout particulièrement en France, quand il s'est lancé en fait dans l'écriture de romans, en fait, hein, inspiré de sa vie, de la vie de sa famille plus exactement, avait mentionné que pour lui c'était totalement complémentaire et articulé, c'est-à-dire qu'entre son travail de musicien et d'artiste, compositeur-interprète, et de romancier, il y avait vraiment cette nécessité de faire vivre en fait une mémoire qui sinon s'oublie, et notamment sous l'effet de médias dominants qui n'ont pas du tout intérêt à raconter la façon dont l'armée américaine écrasait les mineurs dans les années 1890-1900 sous les bombes et les tirs de mitrailleuses. Enfin.
Après, je pense qu'on peut tout à fait avoir un autre processus créatif qui consiste à prendre un sujet, un motif, et à le retravailler toute sa vie et pour en venir à bout, à être par exemple uniquement dans le formalisme. Donc, pourquoi pas ? Je pense pas qu'il y a forcément qu'une ligne. Mais ce qui me frappe, c'est que j'ai autour de moi des gens, je côtoie des gens qui ont des cheminements artistiques très différents, qui peuvent travailler sur des trucs très conceptuels ou autour d'eux-mêmes, où ils racontent leur vie. Leur sujet ne surprend jamais leur public. Et par contre, la chose politique, non pas la chose politique sous une posture postmoderne qui serait dire « Oh là là, comme je prends ça de haut, comme je prends ça en tant qu'artiste avec du recul », mais au premier degré, littéralement, c'est un sujet qui trouble, qui étonne, autant d'ailleurs pour la peinture que pour le roman graphique. Hein. C'est des domaines artistiques dans lesquels il semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup de place légitime naturellement pour tout le monde à la chose politique. Je ne dirais pas ça du théâtre, je ne dirais pas ça de la littérature, où là par contre je pense que les champs sont plus ouverts.
Non, mais clairement, en pensant à certaines de tes toiles ou en lisant et en relisant déjà Manif, parce que c'est un roman graphique donc, qui se relie avec grand bonheur et on découvre toujours des choses, on en dira un peu plus tout à l'heure. Je me faisais effectivement cette réflexion qu'il y a beaucoup de choses que... On voit qu'aujourd'hui, la littérature a le droit, enfin, en tout cas, elle en prend en tout cas le droit, elle a su le prendre, de parler... notamment tout ce qui est autour, par exemple, hein, du post-mai 68, des années de plomb, enfin, en France, en Italie, pardon, en Allemagne, et de la forme un peu particulière que ça a pris en France, et qu'on ne trouve pas, effectivement, pour l'instant, en tout cas, ou l'équivalent de cette production littéraire, ou théâtrale, bien entendu, puisque certains ont même eu le Nobel, hein, je pense à Dario Fo, en traitant précisément ce matériau-là. Et on n'a pas effectivement pour l'instant l'équivalent en roman graphique, donc à part Manif.
Mais je pense que le roman graphique, peut-être faut le traduire, hein, parce que c'est de la bande dessinée pour adultes, sachant que la bande dessinée pour adultes, elle, c'est la dénomination de la bande dessinée érotique, donc... Le roman graphique, c'est finalement quelque chose d'assez récent. Donc, il faut peut-être lui donner le temps d'explorer différents espaces, différents langages et différents sujets. Et effectivement, la chose politique est plutôt récente dans le roman graphique. Même, je pense que j'euphémise quand je dis plutôt récent, parce qu'il y en a très, très peu d'auteurs à travailler la question politique.
On va faire une brève pause avant de revenir à Manif et à l'illustration politique en action, et puis à l'altermondialisme, puisque c'est une partie intégrante de Manif, dont le titre ne doit pas tromper la lectrice ou le lecteur qui voudrait s'y attaquer. On va écouter une chanson en fait, que tu as choisie de Romain Dudek. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi ?
Eh ben, en fait, c'est, je pourrais expliquer pourquoi le sujet de la chanson même, c'est-à-dire la poésie dans les usines, raconte un licenciement collectif. C'est un beau sujet pour du rock, et un sujet inhabituel, mais aussi simplement parce que c'est une chanson sur laquelle je suis tombé par hasard en écoutant la radio, et avant de chercher avec beaucoup de difficultés pour finir par rencontrer directement Romain Dudek. Donc je trouve que c'est assez sympa d'avoir à la fois un bon sujet et un auteur qui est un mec très chouette.
Pas tellement que c'était Noël. Ça fait longtemps qu'on n'y croit plus. C'est pas tellement qu'elles étaient belles, nos machines, mais elles n'y sont plus. C'est pas tellement que c'était Noël. C'est pas tellement qu'elles étaient belles. Au fond des mines, y'a de la poésie dans les usines, dans les ateliers, dans les cantines, y'a de la poésie dans les usines, dans le cambouis, dans la calamine, y'a de la poésie dans les usines, dans les outils, dans les machines, y'a de la poésie dans les usines. C'est pas tellement pour le salaire, on peut pas dire que c'était Byzance. C'est pas ça qui nous rend amers, c'est plutôt qu'on avait confiance. C'est pas tellement pour le salaire, c'est pas ça qui nous rend amers. Dans les aciers au fond des mines, y a de la poésie dans les usines, dans les ateliers, dans les cantines, y a de la poésie dans les... Dans la calamine, y'a de la poésie dans les usines, dans les outils, dans les machines, y'a de la poésie dans les usines. C'est pas tellement que c'est un salaud, qu'il est parti comme un voleur, sans un regard et sans un mot. Mais on n'attendait pas des fleurs. C'est pas tellement que c'est un salaud, qu'il est parti sans un mot. Dans les aciéries au fond des mines, y'a de la poésie dans les usines, dans les ateliers, dans les cantines, y'a de la poésie dans les usines, dans le cambouis, dans la calamine,
C'est pas pour ça qu'on a pleuré et qu'on s'est serré dans les bras. C'est plus profond, c'est plus secret, et c'est plus important que ça. C'est pas pour ça qu'on a pleuré. C'est plus profond, c'est plus secret.
Dans les artilleries au fond des mines, y'a de la poésie dans les usines. Dans les ateliers, dans les cantines, y'a de la poésie dans les usines. Dans le cambouis, dans la calamine, y'a de la poésie dans les usines. Dans les outils et dans les machines, y'a de la poésie dans les usines. Dans les artilleries au fond.
Grand Contrôle, l'événement.
Superbe choix, merci beaucoup Mathieu Colligan. Donc de retour sur le Grand Floor Café de Grand Contrôle. Je vais tenter un exercice de haute voltige en tentant de vous décrire en fait les 8 premières cases donc, de manif. Donc évidemment, ça devrait vous donner, et j'espère que ça sera, c'est le cas et que ça va être le cas, vous donner envie de vous précipiter donc, sur cet album qui est en vente à la librairie Grand Contrôle, mais également à 300 mètres d'ici, à la librairie Caribe, au 129 rue de Charenton. Et l'hiver, première case, effectivement, on est au cœur de la manif, c'est une pleine page, l'hiver. République-nation, nation-république, via la Bastille. Réforme de la santé, de l'éducation, de la PAC, de la recherche, de la nationalité, etc. En toute saison, printemps, été, automne, hiver. Putain, ce qui fait froid. Quelle déprime cette manif. Et quel temps de merde. Arrêtez de faire la tronche, les gars. Il faut se motiver. J'ai froid. Ça pourrait être pire, il pourrait pleuvoir. J'ai froid aux pieds. Quand je commence à avoir froid aux pieds, c'est qu'il fait trop froid. Allez, on s'échauffe. Tous ensemble. Ouais. Ah non, pitié. Voilà. Ça, c'est le début de manif. Donc, Mathieu, on est au cœur donc, d'un parcours classique que tu décris d'emblée, République, Nation, Nation, Bastille, via la Bastille. Comment tu as conçu en fait, cette manif emblématique?
Alors, si je le dis d'une façon théorique, ça peut faire assez présomptueux, mais c'est l'idée de faire... de participer à la mise dans l'espace public de ce qui en est extrait. C'est-à-dire aujourd'hui, la chose militante qu'on ne voit plus dans l'espace public, qui n'a plus une légitimité naturelle dans l'espace public. On ne dit pas naturellement « on va à une manif », à part dans des milieux un peu assez, hélas, trop restreints. Donc c'était participer au fait, en racontant quelque chose où il est naturel que ça se passe en manif, participer à cette relégitimation de la manif. Ensuite, concrètement, si on parle de l'intrigue, l'histoire, elle est relativement simple. Hein, c'est sans dévoiler l'intégralité de l'intrigue, c'est trois personnes qui font une manif, puis soudainement il pleut, donc ils vont boire un café et après il ne pleut plus. Voilà, à peu près ce qui se passe en 180 et quelques pages. Mais évidemment, à travers ça, je voulais essayer de raconter une tranche de vie. Et en commençant à tirer ce fil, c'est venu tout à fait naturellement un nombre d'histoires où je m'en suis aperçu avec des réactions de lecteurs. Il y a des habitués de manif de longue date qui ont juste reconnu tel endroit ou tel... qui m'ont dit « Ah, il manque tel cortège. » Et puis dans telle manif, t'es sûr que c'était réellement à tel endroit, etc. Et puis d'autres gens qui ne connaissaient pas du tout ce milieu me disaient « C'est étonnant, c'est tout à fait exotique. » Donc on peut dire qu'au moins là-dessus, j'ai tenu mon objectif.
Il y a une des choses qui frappe dans le traitement que tu as choisi. Il y a tout un tas de micro-allers-retours en fait, entre différentes thématiques qui, finalement, rendent bien compte de la richesse de ce terreau qui, effectivement, est-ce qu'il est en perte de vitesse, vaste débat, mais en tout cas dans lequel se côtoient des militants qui ont une énorme culture politique et notamment une énorme culture historique politique, donc qui... spontanément vont raconter en fait à des plus jeunes ou à des moins expérimentés des choses qui se sont passées, des luttes précédentes, des manifestations qui ont été des grands succès, d'autres qui ont effectivement aussi peut-être été des échecs terribles. Et ça, dans ce climat qui est à la fois bon enfant, évidemment, mais en même temps où il y a tous les à côté de la manifestation qui sont traités avec beaucoup d'humour et beaucoup d'un certain réalisme.
C'est pas un truc sinistre, une manif. C'est pas un moment où, enfin, ça peut être totalement sinistre quand c'est sous la flotte à 10 et puis qu'on voit bien qu'on n'est pas en phase avec ce qui se passe dans l'opinion publique et qu'on est en train de ramer à contre-courant. Mais une manif, quand il fait beau, de retrouver des gens régulièrement, de pouvoir discuter avec eux, de prendre des nouvelles, de sentir par moment une... Le corps d'une manifestation est quelquefois un animal, un peu comme un serpent, une sorte de grand serpent qui peut émettre des sons. Il y a des manifestations qui grognent. Là, je sais que c'est le vocabulaire, c'est pas un vocabulaire qui est habituellement amical pour la manifestation. On parle de grognement des manifestants ou des grévistes pour les animaliser. Mais le corps de la manifestation peut être joyeux, il peut dégager un son joyeux. Il peut être rapide, il peut être lent, il peut être... J'ai des souvenirs de manifestations où il y avait des vagues de colère, un murmure qui est faire corps dans cette vague, de faire partie de ce serpent. Il y a un moment aussi qui est assez fort. Ça peut être sympa d'être dans une manif et de recroiser des gens qui peuvent nous raconter une histoire, partager une histoire populaire, nous raconter d'autres manifs qu'on n'a pas vécues et petit à petit faire un tuilage comme ça, une manif continue depuis des décennies où j'ai discuté avec des gens qui avaient vécu le début des années 60, les premières mobilisations sur la guerre d'Algérie, puis 68, et qui eux-mêmes se rappelaient de discussions avec des gens qui avaient fait le Front populaire, qui leur racontaient qu'ils n'allaient pas leur faire les anciens combattants parce qu'eux-mêmes, au moment du Front populaire, on les avait barbés avec le congrès de Tours, voire avec des trucs qui sentaient plus la Commune de Paris. Bref. Il y a une continuité qui existe et qui amène une culture générale aussi, qui est une autre histoire, qui n'est pas la seule histoire, mais qui vaut le coup d'être connue.
Oui, je trouve qu'en utilisant ce format donc de l'échange et du récit spontané, enfin, au sein de la manif ou dans sa marge, effectivement, quand il y a une pause qui se fait de facto, tu introduis un certain nombre de vignettes qui sont effectivement de la mémoire encore assez récente de lutte. Et je pense à cette très belle vignette qui est à la page 19, qui s'intitule pas, il y a un cartouche qui dit « Restera une image qui fera le tour du monde ». On a une porte d'église avec trois individus casqués et équipés donc, de matériel paramilitaire. L'entrée des CRS dans l'église à la hache. Mais ça, nous ne savons pas encore. Saint-Bernard. Et il y a un certain nombre de moments comme ça. Donc cette manif effectivement emblématique, un peu mythologique, que tu mets en scène tout au long donc, de l'intrigue de manif, sert aussi de réceptacle donc, à un certain nombre de pages d'histoire, donc d'histoire des manifs parisiennes. Mais tu y insères aussi donc, tout un autre pan de l'histoire, qui je dirais sont des manifs mondiales, qui sont notamment
un certain nombre de
sommets.
On pourrait dire que c'est une séquence. Je l'ai fait démarrer avec les manifs de 95. Contre Juppé, et ça s'arrête dans cette version en 2008. On pourrait dire que c'est la séquence du développement de l'altermondialisme, qui commence en 1995, où il y a un appel pour l'autonomie des mouvements sociaux, et il y a une vraie évolution à ce moment-là de la constitution des mouvements sociaux, un changement de rapport de force au sein du syndicalisme, et émerge un courant un équilibre entre courants politiques qui va donner naissance à l'altermondialisme, très concrètement. Et je fais courir jusqu'à 2008, où il y a un moment de validation par les faits de tout le discours altermondialiste, c'est-à-dire c'est le moment où on a une crise alimentaire, une crise environnementale, une crise économique, bref, tous les arguments du mouvement altermondialiste, et où le mouvement altermondialiste regarde passer le train. C'est-à-dire que, bon d'accord, ils ont raison, et la suite. Parce que derrière n'a pas été pensé le rapport au pouvoir, il y a plusieurs éléments qui, à ce moment-là... mériterait une analyse. Donc ça faisait un cycle complet et effectivement au sein de ce cycle, les rencontres altermondialistes ont été un moment important de constitution, de construction d'un imaginaire commun. Etc. On pourrait dire aussi que c'est la phase du développement d'Internet dans le milieu militant. C'est-à-dire que là on est dans une phase et ça correspond à peu près, c'est-à-dire un moment où il y a un développement des réseaux internationaux qui passent par la mobilisation sur l'AMI ou sur ce genre d'éléments, et qui sont les premières mobilisations où Internet joue un rôle déterminant et change l'espace. Au même titre qu'on peut dire que la première internationale correspond au développement du télégraphe, que 95, c'est l'explosion du fax, de la démocratisation du fax. Je pense que les outils de communication aussi sont des séquences politiques. Alors le bon côté, c'est que Donc là, ça fait une séquence, donc on va dire 95-2008 pour Manif. On pourrait faire une suite qui pourrait s'appeler Estation, pour une deuxième partie, qui ferait donc 2009 jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est, et qui ne serait pas forcément très joyeuse, puisque ce serait plutôt sur la montée du racisme et la question des migrants. Mais pourquoi pas?
Et sur cette séquence qui s'étend jusqu'en 2008, donc on va reparler, je pense, de Porto Alegre et puis d'un certain sommet au Kenya, par exemple. Mais il y a un fil conducteur et qui correspond tout à fait à ce que tu dis sur un peu le changement de nature et sur la caisse de l'espace de retentissement, la caisse de résonance que créent effectivement les médias modernes, contemporains. Je trouve qu'il y a tout un fil rouge sur justement un esprit néo-zapatiste qui est assez fort. Donc à un moment tu évoques le Chiapas, et je trouvais que c'était assez emblématique de le retrouver, puisque c'est un des grands succès de l'EZLN a été donc des néo-zapatistes dont le porte-parole était l'un des porte-paroles était le sous-commandant Marcos, a été de manier mieux que personne à l'époque ces médias qui étaient encore tout neufs et que y compris les dominants en fait ne maîtrisaient pas nécessairement tant que ça.
Alors, à la fois c'est vrai, à la fois il y a un côté très enthousiasmant à voir que par exemple les discours de se retrouver dans une réunion politique où Arun Datiroy fait un discours qui s'adresse à la fois aux Indiens mais qui s'adresse au monde entier, qui est entendu autant donc par des Occidentaux qui sont présents que par des Latino-Américains, que ça résonne aussi chez eux et qu'on est en train de décentrer la circulation de la culture, d'une culture politique qui n'a pas passé par l'Occident, à être validée par les courants dominants au sein du travail de l'intellectuel comme Maspero, comme des gens comme ça, pour ensuite se rediffuser, que là, ça s'accélère et ça va directement du tiers-monde au tiers-monde ou de militant à militant sans passer par une validation, comment dire, pour utiliser des gros mots, par une validation bourgeoise. Mais en même temps, à travers cette validation par des médias, il y a un sujet narcissique qui apparaît. C'est-à-dire qu'on a des gens qui manifestent et qui ne se demandent pas est-ce que cette manifestation est réussie pour elle-même, est-ce que notre camp progresse. Ils se demandent plutôt quelle va être la couverture médiatique. Et si la couverture médiatique est bonne, alors la manifestation est réussie, quel que soit le nombre de manifestants, quelle que soit la façon dont la manifestation s'est déroulée, etc. Et là, on est dans un phénomène un peu dangereux, parce que la validation, elle se fait par des médias qui sont des médias en général dominants et qui ne sont pas totalement neutres, évidemment, puisqu'ils répondent aussi à des intérêts et au moins à des propriétaires qui ont la main dessus. Donc là, on a pour moi une fragilité de ce mouvement qui passe par une validation dans les médias dominants. Ce qui a changé, ce qui depuis, maintenant, on est dans une période où ce qui inquiète d'ailleurs pas mal les journaux qui parlent de fake news, etc. On a une démocratisation de l'information, alors avec les bons et les mauvais côtés, avec la contre-information nulle, mais aussi aujourd'hui les mobilisations lycéennes, par exemple, qui ont lieu ou étudiantes, ne passent pas par les médias dominants, parce que les médias dominants n'en parlent pas ou minimisent, mais passent par des réseaux sociaux où c'est très dynamique et où l'information circule. On peut s'inquiéter et dire oui, mais alors il n'y a plus une seule information et une seule vérité qui est donnée. Est-ce que ce n'est pas plutôt un progrès de ne pas avoir la radio unique, la télévision unique et la seule information validée?
Oui, d'autant plus que c'est des choses déjà qui dans cette période qui se termine en 2008, donc qui n'est pas ce que tu décris là, mais on sent déjà que par rapport à un échange et un brassage d'idées, d'opinions, d'informations en fait, démocratiques qui n'existaient pas nécessairement auparavant, en mettant de côté le risque narcissique, bien entendu, qui est réel, il y a aussi une capacité, finalement, des militants d'horizons variés de faire beaucoup plus de recoupements spontanément que ce que leur prêtent, justement, les médias dominants en disant ils sont complètement dominés par telle ou telle fake news, alors qu'en réalité, l'énorme majorité, et c'est ce qu'on voit aussi ici, justement, entendre plusieurs sons de cloche.
Oui, ce qui était frappant dans le mouvement altermondialiste, justement, dans ces rencontres internationales, c'est de voir que des gens qui avaient les mêmes pratiques, qui avaient construit les mêmes réponses à des problématiques similaires, ne se connaissaient pas. Et c'était, je pense qu'il y a eu Ekta Parishad, qui est un mouvement de masse indien, paysan, qui vient des mouvements insurgés qui ont renoncé à la violence pour des questions tactiques, hein, pas pour des questions morales, qui se disent que ce n'est pas le débouché pour ces mouvements ex-Naxalite. ont développé des mouvements de masse avec de culture populaire, avec systématiquement un binôme homme-femme dans chaque instance, etc. Et ne connaissent, n'ont jamais entendu parler du mouvement des sans-terres brésiliens qui s'est développé strictement sur le même modèle. Et c'est grâce au mouvement intermondialiste que ces gens se rencontrent et on gagne quelques décennies peut-être de construction à travers ces rencontres. Mais ceci dit, c'est pas une thèse, hein, comme tu le sais, ce roman graphique, et je ne fais pas de la théorisation, ça raconte quand même des histoires, et c'est plutôt autour d'événements, comme par exemple au Brésil, ou dans des rencontres, c'est des rencontres auxquelles j'ai participé, où le mouvement brésilien était en train de se développer autour de l'expérimentation de la démocratie, d'une démocratie plus active, autour du budget participatif. Donc c'était une grande leçon de démocratie, parce que c'était vraiment quelque chose de vivant, etc. Et nous disait, mais à Paris, vous faites une vraie démonstration de démocratie pour le monde entier, vous êtes vraiment en avance. Et on a mis du temps à comprendre de quoi il parlait.
C'est un moment qui est assez savoureux, effectivement, ce double miroir, en fait, où chacun se voit moins beau peut-être qu'il ne l'est, et que c'est dans le regard des autres, tout à coup, ils disent « mais c'est vrai, finalement ».
Et donc ces Brésiliens nous rendaient hommage à la grande leçon de démocratie que donnaient les Parisiens en ayant élu un maire homosexuel, ce qui, à vrai dire, nous avait un peu échappé. Enfin, c'était totalement secondaire lors de ces élections, mais ce qui prouvait peut-être aussi que les choses avaient un peu évolué en France, puisque c'était secondaire.
Il y a un grand moment, enfin de joie en fait, hein, qui parcourt quand même donc manif, et notamment autour du sommet de Porto Alegre. Il y a des moments plus dubitatifs, et donc je pense notamment à ce sommet au Kenya où ils s'échangent des choses et où surtout il y a un constat tout à coup qui se fait qui est troublant en fait pour un ensemble de participants et qui est particulièrement bien rendu graphiquement et par les mots en fait quand tout à coup il y a cette prise de conscience.
Je suppose que tu parles des activités extra-forum de certaines figures altermondialistes. On en a un peu parlé dans les médias depuis la sortie de ce roman graphique. Il y a effectivement quelques permanents d'ONG qui, le soir, lors de ce forum social au Kenya, pour se distraire, ont trouvé des gens pour les accompagner, y compris de jeunes africaines mineures, enfin, ou très très jeunes, alors que ces militants n'étaient pas du tout jeunes, et c'est vrai que c'était en contradiction complète avec ce qui se passait dans le forum dans la journée. Ceci dit, dans ce même forum, alors que dans les médias kenyans, on s'étonnait de voir, par exemple, qu'il y aurait une tente sur le mouvement LGTB, en disant, mais il n'y a aucune raison, puisqu'en Afrique, il n'y a pas d'homosexuels, que ça n'existe pas. Le lendemain, le premier jour du forum, cette tente était pleine. Elle était pleine d'Africains, elle était pleine de Kenyans qui, à ce moment-là, pouvaient enfin faire, si ce n'est un coming out, au moins pouvoir parler réellement de la question d'homosexualité au Kenya. Et donc, ce forum a été un grand moment aussi, a été un moment sinistre pour ces à-côtés minables, mais aussi a été un moment très, très enthousiasmant là, dans l'avancée d'une lutte.
Voilà, donc notre plage est en train de doucement se terminer. Donc Manif, c'est vraiment une très belle expérience qui vous permet, donc lectrice ou lecteur, en images et en mots, tu dis que c'est pas une thèse, c'est vrai, c'est pas une thèse, mais les mots sont magnifiquement choisis. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui vibre dans cette manifestation, donc qui va effectivement de République à Nation en passant par Bastille, mais qui englobe peu à peu 10 ans en fait de lutte dans le monde entier, et une partie même de l'histoire des luttes précédentes, dans le cours de cette manif emblématique. Et c'est une vraie réussite, c'est un livre rare, donc je vous encourage vraiment à vous précipiter sur cet ouvrage, vous ne le regretterez pas. On va écouter une deuxième chanson, simplement, on est encore à Ground Control pour quelques temps, on sera à la librairie de Ground Control, donc si certains d'entre vous souhaite profiter de la présence de Mathieu Colligan pour une dédicace, surtout n'hésitez pas. Et sinon, et ben, dans une autre occasion, on sera heureux de vous retrouver à la librairie autour de Manif. Donc, une autre chanson, cette fois.
C'est presque la même chose que la précédente. Hein. C'est des gens bien et qui font une chanson qui est chouette sur le fond aussi. Et donc, ces gens bien, c'est Moussuté les Jeuvennes, donc une excroissance de Massilia Sound System. Et la chanson « Le communisme sans les inconvénients », je crois que le titre a tout dit.
Voilà, à la semaine prochaine, et restons sur Ground Control. En musique, c'était le Ground Floor Café.
s'en perdent et puis s'en perdent aussi. Étaient des prolétaires, ni patron ni marquis. Ils aimaient bien Jaurès et Momo et Léo. N'allaient pas à la messe et buvaient des canons. On sait bien que Staline n'était qu'un gros tyran. Que Trotsky, que Lénine n'étaient pas des malins. On s'en bat, on s'en fiche, nous on va de l'avant. On veut le communisme sans les inconvénients. Puisque la vie est brève, autant qu'elle soit jolie. Ici c'est marche ou crève, c'est pas le paradis. Il faut courber la tête pour gagner un billet. Moi je vais être honnête, j'aime pas travailler. On sait bien que Staline n'était qu'un gros tyran. Que Trotsky, que Lénine n'étaient pas des marins. On s'en bat, on s'en fiche, nous on va de l'avant. On veut le communisme sans les inconvénients. Si je fais le sondage, mes voisins, mes amis, les gens de tous les âges sont bien de cet avis. Tant pis si ça démonte tous les politiciens. Il n'y a pas de honte à se faire du bien. On sait bien que Staline n'était qu'un gros tyran. Que Trotsky, que Lénine n'étaient pas des marins. On s'en bat, on s'en fiche, nous on va de l'avant. On veut le communisme sans les inconvénients. On sait bien que Staline n'était qu'un gros tyran. Que Trotsky, que Lénine n'étaient pas des marins. On s'en bat, on s'en fiche, nous on va de l'avant. On veut le communisme sans les inconvénients.
Grand Contrôle, l'événement.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.